Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben c'est parti, on est en train d'enregistrer avec Titouan Galera. Salut Titouan, comment ça va ?
Salut, ça va très bien.
Je sais que t'as pas l'habitude de passer sur Paris, c'est un peu ta journée... rempli de médias, là je te cueille en fin de journée. Ça va, t'as quand même la forme?
Ouais, ça va, un peu fatigué de voyage juste pour la journée à Paris, mais ça va.
Bon écoute, je vais essayer de te laisser un bon souvenir. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui et tout, parce que je suis hyper content de te rencontrer. Déjà, comme je te le disais, je me suis mis au Wingfoil l'été dernier, donc tu vois, je suis en train de découvrir et j'aurais quelques petits conseils techniques à te demander. Et aussi parce que je m'étais régalé avec Olivia, tu vois, qui fait Olivia Piana, ça a été un super épisode qui avait beaucoup plu, qu'on avait enregistré dans les criques à côté d'hier. Donc ça me fait hyper plaisir de pouvoir connecter. Et puis la dernière raison, c'est que écoute, je me suis régalé en préparant l'interview, parce que tu crées du contenu de malade mental. J'ai surkiffé avec des images de fou. Donc je recommande franchement à tous les auditeurs qui écoutent là d'aller s'abonner tout de suite sur Instagram à ton compte, parce que franchement tu fais voyager, tu fais rêver, ça fait super plaisir quoi.
Et ben de rien, ça me fait plaisir d'être là et merci de me recevoir aujourd'hui.
Bon bah cool. Après toutes ces éloges, on aime bien commencer par l'enfance avec Extraterrien et savoir un petit peu d'où viennent les invités. Et toi, je sais que t'as une enfance qui moi me semble un peu particulière en tout cas, donc j'ai envie de creuser un peu ça. Et la première question que je pose à tout le monde, c'est quel est ton premier souvenir de sport?
Ouais, moi je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et mon premier souvenir de sport, ça peut être donc avant de faire de la wing ou du kite, j'étais quand même dans le milieu de la voile. J'ai fait de l'optimiste, mais aussi du catamaran, du hobbycat. Et je crois que c'était peut-être en 2010, un truc comme ça. Oh non, avant, non, en 2008, peut-être 2008, 2009, j'ai dû gagner le championnat de Calédonie, voilà, de hobbycat. Donc j'étais assez content, c'était l'une de mes premières places quelque part, voilà.
Et ça t'a fait vibrer ce moment ?
Oh bah sûrement à l'époque, je m'en souviens peut-être même plus aujourd'hui, j'ai participé à de nombreuses autres compétitions depuis et eu d'autres titres, mais c'est sûr que oui, ça a dû être un moment fort à cette époque, un élément peut-être déclencheur.
Ok, tous les enfants font de la voile en Nouvelle-Calédonie ? C'est un passage obligatoire ?
Ah non, pas du tout. Bon, c'est quand même une île au milieu du Pacifique, donc il y a quand même peut-être plus de gens qui sont en contact et en rapport avec la mer que d'autres endroits, peut-être voilà, comme ici ou d'autres villes du monde. mais pas forcément la voile. Hein, mais oui, on est axé côté mer, que ce soit pêche, voilà, sortie en mer, plongée, et oui, un petit peu voile quand même.
Ok. Tes parents, ils en faisaient un peu ? Pourquoi t'es tombé dans la voile ?
Ma mère, elle a toujours apprécié être en mer, elle a toujours été proche de la mer, et mon père également, il a toujours fait de la planche à voile, puis du kitesurf quand ça a commencé d'exister, et maintenant aujourd'hui, il fait du wing foil comme moi.
Ok, donc c'est papa le casse-cou de la famille ?
Oh, il n'est pas forcément casse-cou, mais en tout cas, il m'a transmis un peu ces gènes-là.
Ok.
Cette passion.
T'as des frères et sœurs ?
Non, je suis unique.
Ok. Est-ce que t'as fait d'autres sports un peu plus classiques pour moi, tu vois, avec mon œil de métropolitain, mais...
Alors, ouais, j'aime bien marcher en montagne, voilà, j'aime beaucoup la randonnée, pas forcément course à pied, mais plutôt trail, voilà, en montagne, ça me plaît pas mal. Je préfère faire ça que d'aller dans une salle de sport, courir sur un tapis, donc j'essaie de faire ça de temps en temps, que des petites montagnes, que ce soit chez moi, en Calédonie ou ici, en France... Voilà, il y a des beaux terrains de jeu pour faire ça. Je fais pas mal de plongée aussi, pêche sous-marine, voilà, quand je suis en Nouvelle-Calédonie. Et je suis aussi un passionné, pas que de la mer et de la voile, mais aussi de tout ce qui est dans les airs. Donc depuis assez petit, ouais, je fais du parapente et aujourd'hui, voile à voile s'appelle, du planeur et aussi de l'avion. Voilà, donc bon, c'est pas un sport l'avion, mais le parapente, c'est considéré comme un sport. De temps en temps, on marche pas mal, donc voilà. C'en est un.
Ok. Bah ouais, j'ai plein de questions après sur le pilotage aussi, parce que c'est un... Moi, j'ai fait quelques initiations et ça me fait bien vibrer. Tu vois, c'est pas toujours évident, c'est pas les meilleurs spots aussi ici, parce que les premiers aérodromes sont à 1h30, mais c'est quelque chose que je suis en train d'un peu d'explorer, tu vois. Donc, peut-être que j'aurai aussi quelques questions. Comment ça se fait que tu touches à autant de sports différents ?
Je sais pas. Enfin, je suis super content... que ce soit le cas aujourd'hui, d'être quelqu'un de passionné. Et, je sais pas, j'ai toujours été un peu curieux et intéressé de pas mal de choses. Quand j'étais petit, que ce soit avec les profs ou plutôt avec d'autres gens extérieurs qui étaient dans les milieux qui m'intéressaient, je posais peut-être beaucoup trop de questions des fois. Et voilà, j'étais peut-être quelqu'un de curieux et tout ce qui m'intéresse, je le pratique et souvent à fond. Et...
Ouais. Et t'as le temps de tout faire aujourd'hui ?
Ouais, j'essaye, ouais, je fais des petits blocs, voilà, un coup à fond du wing foil, de temps en temps un peu de parapente, après du planeur, de l'avion, la rando, du ski, ouais, en rando aussi, snow kite, et voilà, ça me plaît de toucher à tout, et j'essaie de trouver le temps, je pense qu'on a toujours le temps pour faire tout ce qu'on veut quasiment dans la vie, après, ouais, faut se donner les moyens, mais j'ai la chance de... que l'une de mes passions aujourd'hui, ce soit mon métier, ce qui me permet de gagner ma vie aujourd'hui. Donc, c'est déjà au moins une passion que je fais en même temps que je bosse. Donc, c'est déjà une bonne chose.
Ouais, ça se sent en tout cas que t'es passionné et que tu profites à fond. Donc, ça fait plaisir. Il était comment le jeune Titouan à l'école ?
Oh, ouais, il était terrible. Hein. Vraiment. Enfin, j'ai pas eu une éducation déjà un peu particulière, mais. Mais oui, à l'école, j'étais, je pense, l'un des plus terribles de la classe.
Ça veut dire quoi, terrible ?
Petit, j'étais insolent, je répondais aux profs, je bavardais, je me rendais intéressant, ou j'en sais rien, je faisais un peu le guignol, j'en sais rien, mais j'essayais de me faire remarquer, on va dire, en cours, quoi, depuis petit, voilà. C'est pour ça que je me suis fait virer des collèges et lycées.
Tu t'es fait virer combien de fois ?
Oh, je sais plus, hein. Mais du collège, au moins une fois, mais peut-être plus, une fois que je m'en souviens, parce que c'est une exclusion définitive. Mais les autres, je sais plus. Ouais, si, j'ai eu des exclusions temporaires aussi, et du lycée, quelques fois aussi, et jusqu'à l'exclusion définitive en terminale.
Ok, donc t'as pas passé ton bac ?
Si. J'ai passé tout de suite quand je me suis viré, quand il est libre, et je l'ai eu.
Ok. Tu peux nous dire tes deux pires conneries qui t'ont valu d'être viré ?
Mais en fait, je faisais pas de grosses conneries particulières comme d'autres ont peut-être pu faire, mais c'est juste que ça venait de mon comportement, mon attitude envers les profs, à répondre, à vouloir toujours peut-être avoir raison ou... aussi de mes absences, ça n'a pas dû aider. Voilà, j'étais pas souvent là parce que j'étais en train de faire du modèle réduit ou du parapente ou du surf ou du kite. Et quand j'étais là, bah, c'était juste pas ma place d'être en cours. Ça, il y a peut-être quelques matières qui me plaisaient, mais principalement pas trop. Et donc ma place, c'était pas trop sur les bancs de l'école, on va dire. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à rester, tenir en place là-bas, quoi.
Ouais. Après, tu aurais pu être, tu vois, débordé d'énergie et avoir envie de faire des conneries, tu vois. Moi, je sais que j'étais un peu ce garçon-là, tu vois. Moi, j'ai fait, si je peux te dire les trucs, tu vois. Moi, c'était faire sonner l'alarme incendie, c'était ouvrir des extincteurs, c'était mettre des seaux d'eau par-dessus les portes et les faire tomber sur la tronche des profs. C'était monter sur le toit de l'école, enfin, tu vois, c'était des petites conneries comme ça. Mais j'étais respectueux avec les profs. Toi, tu saurais dire pourquoi
Je pense que j'ai fait toutes les conneries que tu as citées, certainement, mais bon, j'ai dû en oublier une grande partie. Souvent, c'est mes copains du lycée et du collège, quand ils me revoient, ils me racontent des histoires que j'ai faites, et moi, je ne m'en souviens même plus. Enfin, ça me sidère, mais je n'ai pas une bonne mémoire pour ça. Mais pourquoi? Ouais, parce que je faisais ces conneries-là, et qu'après, j'avais une mauvaise attitude envers les profs, et voilà, ça passait pas, quoi.
Ouais. Il était en colère, le Titou? Ou il voulait faire rire? C'est quoi?
Ouais,
c'est...
je pense qu'il voulait faire rire, voulait se faire remarquer, et... Il trouvait qu'il n'avait pas sa place à l'école et il n'aimait pas, je pense, ouais, l'autorité.
Ouais, ouais, je peux te comprendre. Moi, c'était un besoin de créativité, quoi. C'était un besoin de dépenser mon énergie et beaucoup besoin d'attention, tu vois. Ça, j'avoue que c'était un truc important. Et comment ils réagissent, papa et maman? Quand tu te fais virer pour la énième fois.
Ah, je pense qu'ils n'étaient pas au plus fiers, hein, surtout mon père. Hein. Ma mère a toujours été un peu plus cool, mais mon père, je pense pas qu'il devait être très content. Hein. Mais bon, écoute, hein, c'est... je pense qu'aujourd'hui, je m'en suis pas trop mal sorti non plus. J'ai refait des études derrière qui m'ont plu, auxquelles j'étais très attentionné et que j'ai très bien réussi, donc voilà.
Ok. Tu vois, j'aurais jamais deviné ça de toi, tu vois, que tu pouvais avoir un peu ce côté, je vais pas dire rebelle, tu vois, mais enfant terrible, comme tu l'as dit.
Ouais, je l'ai été, peut-être je le suis toujours, mais à une autre échelle, quoi. Pas pareil. Je sais pas si j'étais un enfant rebelle. Franchement, j'ai pas fait de grosses bêtises comme peut-être d'autres ont pu faire durant ma jeunesse. Hein. J'ai pas cassé de voiture, j'ai pas. Je sais pas, enfin, peut-être pris de drogue comme d'autres ont pu prendre très tôt, tout ça. J'ai pas fait ce genre de choses, mais. Mais voilà, je faisais un peu trop de petites bêtises à l'école, mais surtout voilà, au niveau comportement, arrogance envers les profs. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que t'as changé? Parce que là, je te vois, t'es tout calme, hyper respectueux.
Ouais, oh, c'est ce que je fais paraître, hein, ça. Non, mais je pense
bon,
que...
On va couper les caméras, je veux voir le petit ouvrant qui fait des conneries.
Bah, non, mais bon, je pense que des fois, il peut ressortir, mais pas tout le temps. Mais non, il ressort de moins en moins, ça doit peut-être parfois arriver. Ça peut arriver que encore parfois avec des gens ça se passe mal et qu'ils ressentent un peu ce genre de choses là de moi, de l'arrogance ou quoi, mais parfois je le fais même pas exprès. Pourquoi je suis plus comme ça? Parce que peut-être que j'ai grandi, je sais pas, j'ai mûri, j'ai voyagé, je veux dire, avant j'ai passé quasiment toute ma vie en Calédonie, depuis ça fait 7 ans que je fais le tour du monde, donc forcément ça a changé ma personnalité, quoi.
Ouais. Ouais, ça fait grandir de voyager?
Certainement, ouais. Ouais, j'en suis sûr.
Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Parce que voyager, c'est être trop autonome, quoi, que ce soit financièrement, au niveau de la logistique, tout ça. Moi, quand j'ai quitté, après mon bac, que je passais en candidat libre, j'ai quitté la Calédonie et depuis ce jour-là, j'ai eu une aide de aucun de mes parents et je me suis toujours débrouillé et essayer d'être autonome, et voilà, et ça, je pense que ça fait grandir. Et après, quand on voyage et que voilà, rien que voyager, s'organiser pour voyager, apprendre d'autres langues, surtout rencontrer d'autres personnes, ça fait grandir, s'adapter à plein de situations, à plein de logements, à dormir dans des voitures, dans des clubs, sur peut-être quelques centaines de canapés autour du monde, et ça, je pense que ça fait grandir.
Ok. Il a galéré, du coup, le petit fou? Je t'entends, ouais, dormir dans des camions, dormir sur des canapés. T'as eu des petits moments de... Tu cherchais un peu cette galère-là, tu vois? Cette autonomie-là et...
Oh, je sais pas si j'ai cherché, mais je dis pas que c'est une galère forcément, mais oui, quand j'ai quitté l'Académie, j'avais pas les moyens que j'avais aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr.
Ouais. Ok. Et t'avais envie de partir? C'est toi qui avais envie de bouger, de voyager, tout ça. T'en avais marre, je sais pas, tu te sentais un peu bloqué sur l'île et envie de dévorer le monde.
Non, non, en premier terme, je n'avais pas marre du tout de la Calédonie. Ça me plaît énormément, cet endroit-là. Et je voulais pas forcément voyager, mais à la base, je voulais participer à des compétitions. Ouais. Voilà, c'était la première cause. Mais bon, participer aux compétitions, bah, ça m'a fait voyager. Voilà, et aujourd'hui, j'en suis très content et c'est une super. Enfin, je suis super content d'avoir eu la chance de pouvoir faire ça.
Ouais, bah carrément, ouais, j'imagine. Mais tu vois, je savais pas du tout ça de toi, donc je suis surpris et j'ai envie de creuser un peu parce que.
Ah bah ouais, tu peux, hein. Demande-moi tout ce que tu veux.
On est là. Est-ce que c'est facile, tu vois, de partir justement hyper jeune pour aller faire des compètes à l'autre bout du monde? Tu vois, il y a plein de gamins, tu vois, 15, 16, 18 ans, qui auraient flippé, tu vois, de partir sans leurs parents, sans leurs moyens, enfin sans des moyens, avec pas beaucoup d'argent et être hyper autonome. Comment est-ce que t'as fait, toi, ou est-ce que ça te faisait peur déjà à l'époque?
Bah non, ça m'a jamais fait peur et pour moi, ça m'a pas semblé dur parce que bah, j'ai eu l'éducation, j'ai été éduqué en sorte que ça n'a pas été dur pour moi. Mais je pense que c'est pas amené à tout le monde d'avoir eu entre guillemets les facilités d'adaptation et que j'ai. Et voilà, mais ça dépend principalement de l'éducation qu'on a eue. Enfin, voilà, moi, je m'en plains encore aujourd'hui, mais par exemple, mon père, il ne m'a jamais aidé pour quoi que ce soit, pour que ce soit financièrement depuis mes 13-14 ans, ou que ce soit pour me déplacer. Il ne m'a jamais emmené à l'école ou emmené nulle part à une compétition, quoi que ce soit. Et j'ai toujours dû me débrouiller par moi-même. Et bah ça, en fait, bah quand on te l'oblige depuis tout petit, et bah forcément, ça doit te donner des capacités d'adaptation que d'autres n'ont pas. Et voilà pourquoi je pense que pour moi, j'ai jamais senti que ça a été dur. De toute façon, toutes ces années-là, et encore aujourd'hui, bah, à chaque fois, le but ultime, à la base, oui, c'était les compétitions, mais c'est aussi bah maintenant le voyage et les rencontres et de ça. Et j'en ai entre guillemets soif encore aujourd'hui et c'est ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Et donc quand c'est quelque chose qui te plaît comme ça, normalement c'est pas trop difficile, quoi.
Ouais.
Quand ça te plaît.
Ouais, t'es prêt à faire aussi plus de petites concessions. Enfin, tu regardes pas tous les côtés un peu sombres, dormir sur un canapé, tu t'en fous si le lendemain tu peux aller rider.
Ah oui, oui, voilà, t'es complètement content, quoi. Oui, c'est clair.
Mais ouais, je vois tout à fait, tu vois. Petite semaine dans le van, pour plein de gens, tu vois, ça semble la vie de nomade, la vie un peu à l'arrache, tu vois, un peu roots. Mais en fait, quand t'es dedans et que tu kiffes, ça te semble normal, quoi. Et c'est que du kiff. Donc ouais, t'as été hyper autonome hyper tôt, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à la compète? Titou, en plus jeune, il avait l'esprit de compétition, l'envie de gagne.
Bah ouais, je pense que depuis tout petit j'ai eu ça. Alors d'où est-ce que ça vient, je sais pas. Je pense que tous les compétiteurs, ça doit venir principalement des mêmes raisons. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que tous les compétiteurs, c'est pour peut-être prouver quelque chose. Je sais même pas moi exactement ce que c'est, hein, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est sûr. Enfin, c'est histoire de flatter peut-être son ego, des choses comme ça. Et enfin, peut-être que personne va le dire, mais je pense que c'est le cas de la plupart des compétiteurs. Enfin, il y a plusieurs profils de personnes. Moi, je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est se surpasser soi-même, voilà, flatter son ego, se prouver quelque chose. Et c'est moi qui le veux. Et c'est peut-être pour quelqu'un. Je sais pas. Ça peut être ses parents. Ça peut être son éducation qui a fait que c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de ce genre de profil-là dans les compétiteurs. Ou alors, des fois, c'est peut-être les parents aussi qui ont poussé. Et ouais. Des fois, c'est aussi le rêve des parents.
Ouais.
Moi, c'est sûr, c'est pas mon cas. Voilà. Mais ça, c'est aussi le cas. Donc, il y a un peu ces deux genres de profils, je pense. Ouais. Beaucoup dans les compétiteurs.
Ouais, bah, bien sûr, tu sais, quand t'es jeune, t'as besoin d'exister. Et, je trouve que c'est un peu aussi ça le cas. Tu vois, les meilleurs compétiteurs, c'est ceux qui ont réussi à transformer un peu ce besoin, effectivement, d'un peu de reconnaissance, ce besoin un peu d'exister ou de se prouver un truc à eux et qui l'ont réussi à le transformer un peu comme une, tu vois, comme une force, comme une envie inépuisable, tu vois, un truc.
Ouais, enfin, moi, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est le cas de plusieurs de mes proches, ouais.
Ok. Tu penses à qui en particulier?
Oh, je vais peut-être pas citer de nom. Je sais pas si ils ont envie que je parle d'eux, mais ouais, forcément, il y a des gens qui ont des parcours similaires aux miens, et au final, ils se retrouvent à faire les mêmes choses un peu que moi.
Ok. C'est fréquent dans les sports de glisse, tu vois, ou les sports un peu extrêmes, d'avoir des personnalités un peu terribles, du coup, plus jeunes, tu vois.
Je sais pas. Je n'ai jamais trop parlé comment... Je n'ai jamais trop creusé comment ils étaient plus jeunes. Mais c'est certain que... je pense qu'on est tous avec des caractères assez... des profils et des caractères assez particuliers... plutôt que normaux, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi ton premier voyage ? La première fois que tu quittes la Nouvelle-Calédonie, c'est pourquoi tu t'en souviens ?
Ouais, bah, j'ai quitté la Calédonie, je crois que j'avais déjà 6 mois, un truc comme ça. En fait, j'ai mes grands-parents qui sont en France, donc ouais. En fait, j'ai quand même voyagé pas mal, même étant petit. Ouais.
Pour une compète, pour du sport.
Ah, alors, je crois que c'était en 2010, il y a 13 ans. Okay. On est allé en Chine. Et c'était pour les championnats du monde de hobbycat. Voilà, je faisais du hobbycat à l'époque. Et donc, j'ai participé à mes premiers championnats du monde en hobbycat en 2010 en Chine.
Attends, t'as quel âge en 2010 ? T'as 13 ans, non ?
Ouais, j'avais 12, ouais.
12 ans. Et c'est les championnats du monde junior, du coup ?
Non, j'étais avec moi, j'étais équipier. Et on est deux personnes sur un hobbycat. Et moi, j'étais équipier et j'avais un barreur. Qui avait lui 40 et quelques années et c'est dans la catégorie open, voilà, donc tout âge, quoi.
Ok, d'accord, je savais pas que tu pouvais faire des équipages aussi si. Hétéroclites. Ok.
Si.
Donc il y en a un, c'est le barreur, et l'autre, c'était quoi ton rôle?
L'équipier, donc il tient la voile d'avant, le foc,
ouais.
Ou la grande voile, et il fait la stratégie, et l'autre il conduit le bateau.
Comment on peut se retrouver sur un bateau en championnat du monde à 12 ans, quoi? Avec un type qui a 45 piges.
Bah, je sais pas, aujourd'hui je fais des compétitions de wing foil autour du monde, et la semaine dernière on était au Cap-Vert, il y avait deux jeunes de 13 ans qui performent aussi bien que moi, donc ça me surprend pas. Hein.
Ouais.
Voilà, mais comment je me retrouve là-dedans, bah, je sais pas, là, depuis très jeune j'ai fait des compétitions de voile, et puis j'étais motivé, et voilà, ils cherchaient entre guillemets un gabarit léger, parce que l'autre personne était plus forte, et donc bah, c'était voilà, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce championnat-là. Enfin bon, j'en ai fait d'autres après, hein, donc c'était le début. Mais...
Et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué justement dans la voile ? Tu commences à avoir des résultats, ça fait un peu enfant prodige, tu vois, déjà à 13 ans, 12-13 ans, faire des championnats du monde, même si c'est dans la catégorie open, tu vois, mais c'est assez atypique, on va dire, ou en tout cas précoce. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accéléré là-dessus ?
Bah, je faisais du hobbycat, je continue toujours dans la voile, hein, je fais du wing foil, donc c'est quand même de la voile, on fait partie de la fédération de voile, et avant j'ai fait du kite foil, donc j'ai quand même été toujours dans le milieu de la voile, ça n'a pas trop changé. Pourquoi j'ai pu faire du hobbycat ? Bah, parce que bon, c'est un sport qui est des années quoi, 70, c'est quand même assez vieux, voilà, j'aime bien la technologie, quand il y a eu l'arrivée du foil, moi j'en avais plus rien à faire du hobbycat. Et puis en plus, ça me permettait d'être seul. On est deux sur un hobbycat. Enfin, je me suis quand même la plupart du temps assez entendu, mais forcément, être seul, c'est tu fais toutes tes décisions tout seul, et c'est quand même différent d'être seul sur son navire.
Ok. Je crois que tu testes pour la première fois le kitesurf à 9 ans, c'est ça ? T'es pas tout léger à l'époque, tu t'envoles pas en 2 secondes. Faut avoir un peu de force quand même, tu vois, des fois, quand
non.
Ça souffle.
Bah, c'est juste qu'on adapte les voiles. Hein.
La taille de la voile, ouais. Okay.
Ouais. Pour l'époque, c'était peut-être déjà un peu, entre guillemets, surprenant de voir un gamin de 8-9 ans en faire. Mais bon, aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'étais au Mexique, là, j'ai vu un gamin, il a 4 ans, et il fait des figures, il se débrouille super bien. Enfin, j'en avais vu déjà avant, de 4-5 ans, et il arrête super bien. En wing aussi, c'est pareil. Il y en a une quantité énormément de jeunes maintenant, surtout en wing, hein, entre 5 et 10 ans. C'est énorme, la communauté, quoi. Voilà, quand on voit qu'il y en a 13 ans, ils font de la Coupe du Monde. L'an dernier, il y en a plusieurs de 15 ans qui ont gagné des Coupes du Monde. Donc vraiment, c'est une communauté jeune, ouais.
Ouais, clairement, ouais. Mais tu vois, pour la wing, ça m'étonne pas, parce qu'à la fois, c'est un sport jeune, tu vois, et en même temps... Tu peux pas te retrouver dans les rochers, tu vois.
Oui, c'est sûr que ouais, la wing, c'est plus accessible, et ça fait moins peur, et il y a moins de risques d'accident que le kite. Donc oui, c'est peut-être plus surprenant de voir un jeune kiteur, mais ça existe, Et voilà, à 9 ans, j'étais pas non plus, c'était pas non plus si surréaliste que ça, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu te souviens un peu de tes premiers rides, tes premières sorties ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ?
Ah bah oui, je m'en souviens très bien. C'était à l'île Maurice. Voilà, mon père était muté là-bas, donc j'ai appris là-bas, dans des bonnes conditions. Et non, bah ouais, je m'en souviens. Bon, c'est bien longtemps, mais bah voilà, c'était les premières sensations de glisse. Ça allait plus vite que voilà, le Hobby 4. Ça glissait bien et j'étais content. Voilà, les premières fois que je pouvais remonter au vent, revenir au même point que j'étais parti, c'était sympa. Et puis après, commencer à sauter et tout ça. Non, c'était cool.
Ouais. T'en fais tous les jours, du coup, quand tu découvres ?
Oh, bah, j'en faisais peut-être pas tous les jours. J'allais à l'école et j'avais peut-être pas la chance d'en faire tous les jours. Mais je pense qu'au début, ouais, j'avais bien accroché quand même. Hein. J'ai eu des périodes, j'ai bien accroché au début. Puis, ouais, c'était quoi, 8-9 ans. Puis, tu vois, à 12-13 ans, je suis reparti faire du Hobby 4, des Coupes du Monde. Après, j'ai fait d'autres choses. Enfin, mais bon, j'en ai toujours fait un petit peu, ouais, du kite. Mais professionnellement, bien plus tard.
Ouais, ok. T'as fait des compètes ? De kite.
Oui, complètement.
Tu t'y reviens à quel âge ?
Eh ben, à 18 ans, après mon bac. J'ai dit, bon, bah voilà, là, je veux faire des compètes de kite. Et j'ai commencé par des compètes nationales en Calédonie. Voilà. Je m'en souviens, j'avais mis presque toutes mes économies. Donc j'avais acheté un kite performant. J'étais parti faire la compétition. Voilà, j'avais fait des bons résultats. Peut-être un podium, un truc comme ça. J'ai fait un, puis deux. Et puis là, le foil est arrivé et je fais purée, ça, je veux absolument en faire. Okay. Du coup, ma mère, je crois, comme on avait, enfin, j'avais des économies, plus ma mère m'avait aidé, je crois, pour l'acheter pour Noël. J'avais acheté mon premier foil. J'avais fait des compétitions aussi nationales en Nouvelle-Calédonie avec. Et j'avais fait pareil, des podiums. Je n'avais pas gagné forcément, mais j'avais fait de bons résultats. Et je savais que je pouvais aller mieux. Je n'avais pas le meilleur matériel.
Tu as commencé quoi, en race ou plutôt freestyle ?
En race. Je n'ai jamais fait de compétition de freestyle.
Ouais, ok.
Donc la race en foil. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis acheté un meilleur foil plus performant. J'ai économisé un peu de sous. J'ai acheté aussi une ou deux voiles, au moins une, plus performante. On m'en a prêté une autre. Et en mai 2015, peut-être, je suis parti faire les premiers championnats de France à la Tranche-sur-Mer. Et je crois que j'avais fait un top 10. Je ne sais pas si j'avais pas fait 8e ou peut-être 10e, un truc comme ça. Voilà, donc bah, j'étais content pour une première participation. Mais bon, j'en voulais plus. Je suis rentré en Calédonie. Moi, ouais, je naviguais, je m'entraînais un petit peu. Mais j'ai surtout travaillé pendant plusieurs mois. J'ai tout fait, livreur de pizza, jardinage, livraison de quoi que ce soit pendant plusieurs mois. Et puis presque un an plus tard, voilà, mars 2016 du coup, voilà, et ben, je décide de partir de Calédonie avec tout mon argent de côté. De venir me baser en France pour pouvoir faire plus d'événements de kitefoil. Voilà, j'arrive avec toutes mes économies, j'achète un camion que j'ai encore aujourd'hui, j'achète une ou deux voiles, une nouvelle aile de foil. Et voilà, c'était parti, je dormais dans mon camion au mois de mars, il faisait super froid. Et je suis allé sur...
Bienvenue en France.
Voilà, l'eau qui pique et tout ça, c'était horrible au début.
L'eau qui pique, c'est-à-dire ?
Ben, l'eau qui est froide, elle pique, quoi, tellement il fait froid.
Ah, ok,
ok. Je connaissais pas ça, moi. Pas trop. J'étais venu en mai, donc ça allait, déjà, c'était froid, mais bon.
Ah, ouais, okay.
Mais en mars, c'était autre chose. Et d'ailleurs, j'ai tellement froid, je me baigne toujours pas, là, en mars, j'aime pas ça. Et donc, du coup, voilà, et après, ben là, j'ai fait pas mal d'événements en France, et puis j'ai eu mes premiers sponsors qui m'ont... Au début, voilà, proposer du matériel à prix coûtant. Et puis après, ils ont vu que j'avais pas de sous. Bon, bah, ils m'ont prêté du matériel. Et puis, ils ont vu que j'ai fait des bons résultats. Qu'est-ce que j'avais fait au championnat de France ? Je sais pas, j'avais fait peut-être un top 5, un truc comme ça. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, tiens, vas-y, on va te payer on va te donner de l'argent, enfin, du budget pour que tu vas pouvoir aller faire la Coupe du Monde. Non, j'ai fait d'abord la Coupe du Monde en Europe. Il y avait les premières étapes en Europe. Du coup, c'était moins cher. On y allait avec la Fédération de France. Et ils nous emmenaient en camion. Aller en Italie, tout ça, c'était mes premiers voyages. Voilà, c'était cool, rencontrer plein de gens. Voilà, première compétition, enfin des soirées, ça, c'était super. Et puis après, j'avais fait des bons résultats à ces compétitions-là. Donc, ils m'ont dit, bon, bah tiens, on va t'envoyer aux autres compétitions. Et j'ai fait, voilà, en 2017, du coup, je fais mon premier World Tour. Et je crois que je fais top 5, un truc comme ça, de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était le début et c'était parti après pour encore 2 ans de Coupe du Monde en kitefoil.
Ok. Cette Coupe du Monde, c'est un peu le déclic, l'événement déclencheur pour changer de vie, tu vois. Là, j'ai l'impression, en t'écoutant, que tu vivais un peu, tu vois, la route, à ton rythme, sans trop te prendre la tête, tu vois, et juste essayer de profiter au max. Mais
Ça n'a pas trop changé, hein.
C'est vrai.
Bah oui, j'ai toujours envie de profiter au max et vivre la route, je sais pas.
Tu vis toujours dans ton camion ?
Non. Non, enfin, je pourrais, hein, j'ai pas forcément. Là, en ce moment, j'ai même pas de maison, en ce moment. Je crèche à gauche à droite chez des copains à Montpellier, puisque je suis là très peu de temps, en fait, donc j'ai pas besoin forcément de logement. J'en avais un avant, là, j'en ai pas besoin. Je suis rentré il y a 3 jours. Donc, voilà, on a une compétition pendant une semaine, bientôt, là, le Mondial du Vent. Donc, j'ai pas forcément besoin de logement en France. Mais non, je vis un peu moins à la route. Mais mes années de kitefoil, c'était quand même toutes pas autant à la route, mais c'était pas. C'était plus de la survie qu'autre chose, mais pas, enfin, je vivais quand même mon rêve, voilà, je voyageais, enfin, je rencontrais énormément de personnes, je participais à des compétitions, et enfin, voilà, pour moi, c'était super, et c'est encore aujourd'hui ce que je fais, et c'est super.
Ouais, ah, mais c'est dingue, tu sais, quand tu vis ta passion et que tu fais vraiment le sport qui te fait kiffer, en fait, à quel point tu peux oublier un peu les à côté, tu vois, et puis quand tu regardes en arrière, tu te dis, oh, j'ai fait ça, j'ai vécu comme ça pendant 2 ans, ouais, c'est pas possible. Il y a eu des moments un peu durs où tu as douté un peu de la réussite. Tu vois, là maintenant, je te vois, tu vois, sur Instagram, tu as une énorme communauté. Je vois que tu vois, il y a des sponsors, tu fais le tour du monde, tu fais des projets tellement stylés. Ça donne envie. On se dit pas, tiens, petit Titou, en fait, il y a 5-6 ans en arrière, il était dans la galère. Enfin, pas la galère, tu vois, mais vivre avec un rythme de vie un peu plus précaire, tu vois. Il y a eu des moments où tu as douté ?
Je sais pas vraiment si j'ai douté, mais c'est sûr qu'au tout début, c'était pas facile et je vivais vraiment au jour le jour. Mais en fait, je doutais de rien parce que je m'attendais pas forcément à grand chose. Voilà, j'allais d'événement en événement avec mon camion et puis j'avais pas besoin de forcément grand chose. Je savais qu'un jour.
T'as acheté ta bouffe, ton essence et c'est tout, quoi.
Ouais, voilà, j'allais faire des études un jour et que c'était juste pour profiter quelques années. Voilà, j'ai douté de ma réussite dans le sport. Enfin, vraiment, voilà, je savais que ça pouvait me faire tout juste vivre et voyager. Et voilà, et j'en étais content. Et je savais que ça allait pas aller plus loin que ça, en tout cas dans le kitefoil. J'ai pas eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui en wing qui m'ont permis de vivre autrement. Mais même si j'avais eu des super résultats, j'aurais pas fait de ça mon métier toute ma vie. Dans tous les cas, je savais que j'allais un jour refaire une reconversion, je ne sais comment, et je doutais pas pour ma santé ou ma vie. Je veux dire, j'ai mes grands-parents en France, j'y retournais quand même assez de temps en temps, parfois pour travailler aussi un peu avec mon grand-père, me faire un peu de sous, bien manger, bien dormir, voilà, des trucs comme ça.
C'est vrai ça, les grands-parents.
Ouais, bah, exactement. J'ai encore envie d'aller les voir, j'espère aller les voir bientôt, ouais. Profiter d'eux.
Bah, bien sûr. Donc tu vis ton rêve, et c'est en quelle année que la wingfoil arrive dans ta vie, tu vois, et j'ai l'impression, tu vois, en lisant un peu ton parcours, que tu lâches tout. C'est un espèce d'énorme kiff et que tu te dis, waouh, la wing, c'est un truc de malade. Tu fais un peu all-in, tu vois, j'ai un peu l'impression. Je me trompe d'avoir vu ça comme ça ?
Ouais, je dirais pas que j'ai fait all-in. Alors, c'est arrivé mars-avril 2019, la wing, voilà, donc il y a aujourd'hui 4 ans. Non, j'ai pas fait vraiment all-in. Ça s'est fait petit à petit, même la transition. Parce que la wing, elle a pas. Enfin, entre guillemets, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a explosé d'un coup. Parce que, oui, ça a duré un an, mais un an, c'est long dans une saison. Surtout quand on vit de pas grand chose. Et donc, quand la wing est arrivée, moi j'étais encore kitefoiler pro, on va dire. Et,
tu gagnes ta vie à ce moment-là ?
Oui. Enfin, je me nourris. Voilà, je voyage.
T'as du matos et tu peux vivre, quoi.
Ouais, voilà. J'ai des résultats, voilà, je suis dans le top 10 mondial. Ça me permet, voilà, de vivre, voyager, manger, mais pas plus. Je fais à aucun moment des économies ou quoi que ce soit. Donc je sais que c'est éphémère.
Et toi, comment tu fais pour payer les voyages quand tu arrives, je sais pas, aux compètes, je sais pas, tout à l'heure tu citais le Mexique ou le Cap-Vert, peut-être tu peux te prendre une auberge de jeunesse, tu vois, mais ça coûte quand même un peu d'argent, tu vois, toutes ces compètes, tous ces trucs, tu vois. C'est toi qui les finances ? Ou c'est une DFD ou des sponsors
Non, c'est les sponsors d'équipementiers principalement qui sponsorisent la plupart des athlètes.
Ok, ouais. Et du coup, ils te remboursent le billet d'avion et ils te remboursent le. Ouais, donc tu voyages entre guillemets à leurs frais, quoi.
Ouais.
Ok.
Exactement.
Et tu dépenses de l'argent quand t'es en France et que t'as pas de compète.
Oui, voilà, si on veut. Oui, enfin, tous les jours aussi, hein, pour manger, tout ça. Et puis, j'ai des frais quand même. Bon, j'ai pas de loyer, mais bon, j'ai un garage, j'ai des voitures, j'ai d'autres passions.
Bien sûr.
J'ai d'autres frais quand même dans ma vie.
Non, mais.
Jusqu'à l'époque, en tout cas.
Mais je cherche à comprendre, tu vois, à l'époque, comment tu faisais, quoi. Parce que tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, tu vois, et qu'on, tu vois, souvent, qu'on l'image du champion, tu vois, qui arrive, qui vit bien, tu vois, le petit Touan qui est sûr de lui, c'est bon, il n'y a plus de problème, grosse communauté, tu survis et tout, mais on a du mal à voir, je trouve, avec les réseaux sociaux notamment, tu vois, les étapes pour y arriver, tu vois, et les moments qu'il peut y avoir un peu de galère, et moi, je trouve ton parcours, il est hyper inspirant pour ça, tu vois. T'as juste vécu ta passion, et puis un jour, ça a marché, et du coup, tu profites, et tu continues, quoi.
Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. Mais pour continuer tout à l'heure, là, pour finir la question, quand tu disais que je faisais all-in, voilà, pour finir, ça s'est pas passé vraiment comme ça, genre, voilà, moi, j'étais encore kite foiler pro, entre guillemets, et j'ai quand même continué ça un petit moment, presque, même plus d'un an, hein. Ouais. J'ai continué plus d'un an à faire des compétitions, pas toutes, de kite foil, celles qui étaient intéressantes pour moi, rémunératrices. Et la wing, voilà, même si on dit aujourd'hui que ça a décollé d'un coup, ça met quand même plus d'un an, même plus. Et au final, c'est long dans une carrière d'athlète, surtout quand on vit pas forcément bien et qu'on a d'autres projets dans sa vie. Et donc ça s'est fait petit à petit, quoi. Voilà, au début, j'en ai fait un peu, puis il y a eu les premières compètes. Mais quand les premières compètes, à aucun moment on s'est dit bah tiens, il va y avoir vraiment des athlètes qui vont faire que ça et ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est carrément le cas. Mais ça a quand même mis du temps. Et regarde, tu vois, ça a commencé en avril 2019. On avait les premières compètes fin 2019. Et dis-toi que moi, j'ai quand même décidé en septembre 2020 de reprendre mes études. Parce que je me disais, tiens, c'est le bon créneau, j'ai bien vécu, mais je vais pas trop aller loin parce que je gagne pas d'argent et je vais m'arrêter là, quoi. Donc c'est pour ça, l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai repris les études en septembre 2020.
Ok, c'est plus clair, c'est beaucoup plus clair. Merci pour les précisions. Et ouais, t'as pas peur de, tu vois, en te lançant un peu dans la wing et petit à petit en faisant de plus en plus, tu vois, de perdre ce statut. En kitefoil, t'es dans le top 10 mondial, tu vois. Tu vois, il peut y avoir aussi ce truc de dire, ah, tiens, je pourrais être numéro 1. Le numéro 1, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, s'il en vit... uniquement, tu vois, des prize money plus les sponsors. Mais tu vois, tu te dis, bon, allez, je suis dans le top 10 mondial, je peux commencer à faire des belles images et des sponsors qui me suivent. Tu peux te dire, bon, tu touches le rêve du doigt, tu vois. Déjà, tu vois, tu commences à la... En recommençant un autre sport, tu veux te dire, surtout qui est tout nouveau, où tu peux avoir plein de mecs qui arrivent et qui te font des bien meilleurs résultats que toi, tu vois. C'est risqué un peu comme pari.
Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2019... on va dire le pic de ma carrière, de mes résultats en kitefoil, il était déjà derrière moi. Voilà, j'ai eu mon meilleur résultat en 2017, où j'ai fait 3e au championnat du monde. Et après, en 2018, je fais 10e. Et en 2019, je fais 15e. Donc j'étais un peu, entre guillemets, sur la pente descendante, je le sentais. Et ça faisait 4 ans, entre guillemets, que je faisais le tour. Voilà, peut-être comme... plusieurs passionnés, au bout d'un moment, enfin je sais que moi des fois je me lasse au bout d'un moment des choses, comme pas mal de choses dans la vie, et en tout cas là c'était aussi le cas en kitefoil, et en plus à ce moment-là la wing arrive, et puis la vérité, enfin carrément à côté du côté professionnel et de ça, ça me plaît, quoi. Au début j'y croyais pas du tout, hein. J'étais le premier à dire non, mais c'est pas intéressant, mais après quelques mois on a fait des shootings avec mes sponsors, mes anciens sponsors, dans des endroits sympas où il y avait des vagues, du bon vent, avec du matériel qui a évolué aussi très rapidement. Et là, j'ai senti le potentiel et je prenais plaisir à en faire. Donc, c'est là que je me suis dit, je me suis même pas dit ça. J'ai juste continué petit à petit au début à faire les deux. Et puis, je voyais qu'en fait, la wing, ça me plaisait vraiment. Et en plus, ça avait plus de retombées médiatiques et que les gens regardaient de plus.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En plus ça, et au moment où j'ai switché, je me suis même pas dit que j'allais pouvoir aujourd'hui en vivre. C'est pour ça que j'avais repris les études après en 2020. Mais ça a pris un peu de temps, ça a pris un an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, au final, j'ai fait ce choix, mais sans penser aujourd'hui que voilà, j'allais pouvoir en vivre. Donc ça s'est fait un peu à l'origine plutôt par passion et par attirance. Enfin, c'est ce qui me plaisait, quoi. ça me plaisait plus que de continuer à faire du kite foil.
Ok. Bon, si tu te lasses vite, j'espère quand même que tu vas pas arrêter la wing de sitôt et que tu vas quand même continuer à t'éclater sur le circuit. Ouais. Parce que là, ça va faire du coup 4 ans. Si tu me dis que tes cycles, c'est 4-5 ans.
Ouais, on pourra en parler après, hein, mais ouais, bah, on verra. Enfin, si, j'ai envie de continuer, mais peut-être pas les mêmes choses. À voir.
Ouais. Mais c'est quoi qui te fait rêver du coup? T'as été peut-être, alors pour les auditeurs qui te connaissent pas, t'es 3 fois champion du monde. D'ailleurs, si tu peux expliquer un peu les compètes, je pense que ça pourrait bien aider, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'anime là encore? C'est quoi les futurs projets?
Eh ben ouais, alors il y a plusieurs catégories en wing. Ça fait 3 ans maintenant qu'il y a la catégorie race et freestyle. Voilà, moi j'ai eu 2 titres en race et 1 titre en freestyle. Et cette année, ils ont ajouté la catégorie vague, qui est super. On va avoir 3 étapes et sûrement plus les prochaines années.
Et tu peux faire les 3 à chaque fois, c'est au même spot, au même endroit?
Non, pas du tout. À chaque fois, c'est souvent des spots différents et c'est pour ça que ça fait beaucoup trop de voyages aujourd'hui et que forcément, comme dans tout sport, les gens ils risquent de se spécialiser. C'est ce que je risque de faire déjà en enlevant une discipline notamment. Et voilà, et donc, j'ai eu plusieurs titres dans cette discipline-là les dernières années, et bah, j'en suis content. Si j'en ai d'autres, tant mieux. Si j'en ai pas d'autres, pas tant pis, mais je vais bien sûr essayer de me battre pour en avoir d'autres, ou au moins des podiums. Mais c'est sûr que les envies, je pense qu'elles changent un peu avec le temps, et aujourd'hui, j'ai toujours adoré le voyage et les rencontres. Si je peux faire plus de ça les prochaines années, plus que de compétitions, je pense que ça me plairait. Enfin, si on regarde, j'ai quand même fait des compétitions depuis que... depuis que j'ai 10 ans, quoi, 11 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais. Et maintenant, à haut niveau, depuis presque 8 ans, voyager sur des compétitions, on ne voyage pas forcément tout le temps sur les meilleurs spots du monde, ni dans les meilleures conditions. Et des fois, ça peut être quand même très frustrant. Après, quand on est jeune et ça, il n'y a aucun souci. Qu'on est vraiment mort de faim, c'est super important de faire des compétitions et ça permet justement de développer son image et tout ça. Mais une fois qu'on a fait le tour, qu'on a développé son image, je pense qu'il y a plein d'autres choses super intéressantes à faire, et c'est ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui en essayant de créer du contenu pour les auditeurs, mais aussi en développant du matériel avec mes sponsors, bien sûr. Tout l'aspect de création de contenu, de films, vidéos, pour peut-être des causes que je défendrai, en faisant des expéditions, des aventures, des voyages, c'est quelque chose qui me plairait de faire dans le futur. Enfin, j'en parle aujourd'hui, j'ai rien organisé là-dessus, hein, mais ou très peu, mais c'est dans ma tête, et voilà, j'aimerais bien le concrétiser un de ces jours. Voilà.
Ok, bon, on va suivre tout ça. Peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas, tu peux expliquer un peu les 3 disciplines, comment ça se passe d'un point de vue compétition? J'imagine le freestyle, il y a des juges, des humains, mais vous êtes combien, ça dure combien de temps, c'est étalé sur plusieurs jours, tu pourrais expliquer un peu ça?
Ouais. Alors, il y a des humains partout, il y a des juges partout dans toutes les disciplines. Le freestyle, c'est du 1 vs 1, un peu comme, on va dire, le football. Et après, celui qui perd est éliminé et on va jusqu'au 8e de finale, puis les quarts, les semis et la finale. Voilà, et c'est des juges qui jugent l'exécution de figures, voilà, sur un plan d'eau. Et celui qui exécute le mieux certaines figures remporte le hit. Combat.
C'est l'un après l'autre ou vous êtes tous les deux sur l'eau en même temps?
Non, on est tous les deux l'un contre l'autre.
En même temps?
En même temps.
Ok, et vous avez combien de temps?
Ça dépend, ça peut être des fois 5, des fois 10, des fois 15 minutes.
Ok.
Voilà, ça dépend des conditions, que des conditions météo principalement.
Ok.
Enfin, des conditions.
Et généralement, c'est des plans d'eau qui vont être très plats avec pas mal de vent quand même?
Ouais, on tombe malheureusement souvent là-dessus, mais ce que tout le monde préférait, ce serait quand même des plans d'eau avec un peu de vagues. Pour s'en servir comme tremplin.
Ouais.
Voilà. Mais souvent, on se retrouve sur des plans d'eau plats. Voilà.
Et les Coupes du Monde, elles sont où pour ça? Pour le freestyle?
Là, on en avait une en Nouvelle-Zélande. Là, on a le 4 la semaine prochaine, le Mondial du Vent. On va en Grèce en mai, à Brest aussi. Après, on va où? On va aux Canaries, toutes les îles du Canaries.
Okay.
On va aller à Cape Town, on va aller au Brésil.
Ah ouais, il y a
Je sais plus où d'autre.
C'est déjà beaucoup. Pas mal.
Ouais.
C'est hyper étoffé du coup comme circuit.
Ouais, c'est vachement européen quand même, mais oui, il y a pas mal de destinations, c'est cool. Des destinations plus cool que d'autres, mais... mais voilà. Donc ça, c'est pour le freestyle. La race, bon, bah, c'est assez simple, hein. C'est des courses, c'est le premier arrivé, le premier gagne.
Vous êtes combien à partir ?
C'est des poules de 10, voilà.
Okay.
De qualification, et puis après on fait des semi-finales et des finales aussi.
C'est la même chose que peut-être pour les auditeurs, tu sais, peut-être qu'on peut... Tu as forcément des souvenirs de petites images de planches à voile, tu vois, avec Antoine Albault ou Charline Picon, tu vois, notamment durant les Jeux. C'est le même format, avec des grosses bouées, et vous partez comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on fait souvent du slalom. Voilà, on part d'un endroit un peu au vent, on part et on enroule quelques bouées jusqu'à une arrivée. Voilà, c'est des formats assez courts, moins de 3 minutes de course. Ça risque de changer, c'est toujours un sport nouveau et il y a même déjà d'autres associations qui font des formats différents de courses. Donc, on risque de voir du changement les prochaines années. Ils viennent d'intégrer la vague, voilà, ce qui est super cool parce que, bah, c'est ce qui plaît à la plupart des utilisateurs aujourd'hui. Et on a eu la première étape il y a quelques jours au Cap-Vert, pendant une vague qui s'appelle Ponta Preta. C'était un super événement. Et là, bah, pareil, c'est l'exécution, entre guillemets, de figures, de manœuvres, de carves sur une vague. Et ceux qui exécutent le mieux remportent le hit, là. L'adversaire perd, voilà. Et ça continue comme ça.
Et là aussi, c'est un one-to-one ?
Oui,
un one versus
c'est ça.
Donc ça pourrait un peu s'apparenter à des compètes de surf ?
Oui, ah ouais, c'est exactement ça.
C'est le même modèle
c'est
que
le même modèle
de surf.
Que le surf, ouais, exactement.
Ok. Ouais. Et donc ça, c'est ce que tu préfères ?
Ouais, bah, enfin, tout le monde adore rider les vagues, ouais, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Après, j'aime bien la race, je me débrouille bien en race aussi, donc j'aime bien ça.
Non, mais tu vois, en regardant ton Insta, tu vois, j'étais un peu surpris, parce que du coup, moi, j'avais pas autant d'informations que tu viens d'en donner là, tu vois, mais on te voit, il y a plein d'images où on te voit effectivement dans les vagues, on se dit, waouh, en fait, c'est ce qu'il kiffe, il crée plein de contenu là-dessus. Et quand tu regardes une compète de race, tu te dis, ouais, ça n'a rien à voir en fait.
Et ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que voilà, ils ont intégré les vagues que la troisième année parce que faut savoir que c'est les événements les plus durs à organiser parce que avoir du vent, c'est pas tout le temps gagné.
Faut choisir les spots, ouais.
Voilà, faut choisir les bons spots, mais même les bons spots, hein, y a des années au Mondial du Vent qui est très réputé pour le vent en avril, et ben, y a déjà eu des années avec 100 vents toute la semaine, donc voilà. Après, faire des compètes de surf pur, parfois c'est dur à organiser aussi, d'avoir bah, que des vagues la bonne période. Mais alors, faire une compétition où il y a du vent et des vagues, et dans la bonne direction et tout ça, c'est quand même assez dur à avoir. Il n'y a que quelques endroits dans le monde qui peuvent donner ça, où on peut voir ce type de conditions, où on a de grandes chances de voir ce type de conditions pendant une période donnée.
Ouais. Ouais, c'est la probabilité en fait qui...
Et voilà, donc c'est pour ça que c'est assez dur à organiser et que d'ailleurs, là on parlait de way, enfin, temps d'attente de compétition, la durée de la compétition, dure beaucoup plus longtemps sur les étapes de vague, c'est 10 jours, contrairement à là, 5 jours pour une étape de freestyle.
Ok, d'accord. Ouais, en fait, si c'est si long, c'est en prévention du fait qu'un jour il y ait potentiellement rien, quoi.
Ah bah c'est pas un jour, c'est sur 10 jours. En fait, il y a que deux jours où ça va marcher.
Ouais.
Plutôt.
Ok.
C'est ça le rapport, plutôt. Là, on revient, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, on a eu des conditions extraordinaires. Mais on pourrait très bien avoir rien pendant 10 jours.
Ouais. Et dans ce cas-là.
Parce que avoir des vagues et du vent en même temps, c'est quand même très rare.
Ouais. Mais écoute, ouais, merci pour ces précisions. Ça permet un peu de comprendre et. Je te vois, moi, développer de plus en plus, tu vois, de contenu, de vidéos. Je regardais un peu, je dis, j'aime bien un peu comprendre tiens, comment ça se passe au niveau de la partie un peu plus artistique et créative. Toi, ça a commencé à exploser quand, en fait, les contenus que t'as fait, c'était des contenus de compète qu'on marchait ou plutôt des contenus que t'as créé toi-même?
Je pense que les compètes, c'était plutôt la notoriété, que ça a influé sur la notoriété. Voilà, les gens, ils vont plutôt te connaître. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui vont exploser le plus du tout les compétitions. Au contraire, ce sera plutôt ouais, du contenu personnel, créé personnellement. Voilà, je pense.
Ok. Et toi, c'est à partir de quel moment que ça a explosé ?
Ah, bah, c'est vraiment beaucoup au début de la Wing, je pense. Enfin, entre guillemets, j'ai été un peu, je pense, sur certains trucs, le premier à faire certaines choses, figures, ou surfer des vagues, ou voilà, faire des truc particulier avec une wing, quoi. Et donc du coup je pense que c'était surtout au début que vraiment ça a explosé, et ben maintenant il y a de plus en plus de pratiquants, donc c'est de plus en plus dur de faire un contenu particulier vraiment qui sort du commun, quoi. Donc c'est surtout au début que ça a vachement explosé. Voilà.
Ouais. Ça allait vite.
Ouais. Ouais, bah je sais pas sur quoi me fier pour dire ça, mais oui, c'est sûr, j'ai vu ma communauté augmenter assez rapidement à l'arrivée de la wing. Rien à voir avec quand je faisais du kitesurf, ouais.
Ok, ok. J'imagine que tu peux pas filmer, tu vois, quand tu rides. Et du coup, il y a forcément quelqu'un qui t'accompagne, tu vois. À quel moment tu t'es dit, ouais, tiens, il faut que je constitue une petite équipe ou que je me fasse accompagner pour créer du contenu et investir là-dessus, tu vois.
Alors, j'en ai jamais constitué d'équipe aujourd'hui. Et j'aimerais bien constituer, mais bon, j'ai pas les moyens aujourd'hui.
Ok.
Et on peut se filmer seul sur l'eau. Il y a des caméras embarquées.
Ouais, bien sûr. GoPro,
tout ça, qui permet de faire des contenus super intéressants. Mais la plupart du temps, c'est un peu, on va dire, à la débrouille. Il y a beaucoup. Quand on est sur des spots, il y a souvent d'autres riders qui sont là. Donc, souvent, on s'entrefilme. On s'entrefilme très souvent. Parfois, quand on est sur des compétitions, bah, y a les médias de la compétition qu'on peut réutiliser. Ou alors, mais je ne voyage jamais avec une équipe de médias ou quoi. Je n'aurais jamais les moyens de faire ça.
Ok. Mais franchement, on dirait que tu as les moyens pour le faire, quoi.
Ouais, c'est ce que voilà, le monde aujourd'hui veut faire paraître, mais ce n'est absolument pas le cas. Hein. Non, c'est bien à la débrouille. Voilà, chacun essaie de se débrouiller comme il peut. Là, on était au Cap-Vert. Il y a quelques jours, on a eu des conditions extraordinaires. On s'est dit, bon, bah, il faut qu'on filme ça. Et du coup, on tournait. Hein, voilà. Moi, pendant une heure, j'allais filmer. Et puis, on était trois. Et après, hop, il y en a un qui sortait de l'eau. Moi, je changeais. J'allais rider. Il me filmait. Et puis, voilà, on se débrouillait comme ça. Ou alors, sinon, quand voilà, les endroits que je connais un peu plus, quand je rentre chez moi en Nouvelle-Calédonie, bon, je connais des gens. Je les emmène avec moi en bateau. On va faire des photos ensemble, des vidéos ensemble. Je sais que les conditions vont être bonnes. Donc, du coup, je les embauche, entre guillemets, pour une journée ou plus. Voilà, et je vais les payer pour une journée pour me filmer, pour me faire peut-être un montage. Voilà, ça je le fais, mais jamais je vais aller voyager avec une équipe tout le temps. Les gens que je revois un peu plus souvent, mis à part les gens que je revois en Nouvelle-Calédonie ou parfois en France que je vois assez souvent, ça va être des gens qui travaillent eux avec nos sponsors. On fait des shootings annuels, parfois une fois, deux fois par an, et souvent ils reprennent eux les mêmes personnes parce qu'ils ont les moyens. Puis c'est mieux pour eux. Donc, du coup, on les côtoie un peu plus, mais les images, elles sont principalement pour nos sponsors plus que pour nous, quoi. Voilà, mais il n'y a aucun athlète, en tout cas dans le wing aujourd'hui, même dans le kite, qui a les moyens de voyager avec sa propre équipe de médias. Ou enfin, si, on peut le faire, mais vraiment une fois sur l'année, deux fois sur l'année, mais jamais, à aucun moment, on va payer des billets d'avion sur 15 destinations dans l'année, c'est pour quelqu'un d'autre, et en plus le payer. Donc souvent, les endroits où je sais qu'il y a des bonnes conditions et que j'ai envie aussi de faire des images, je contacte les gens au préalable. Je dis, tiens, je m'appelle Titouan, je viens de telle date à telle date, à Tahiti, à, je sais pas, à l'île Maurice, voilà. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire du contenu ensemble? Oui, non, peut-être tel prix, c'est trop cher, non, tant pis, je peux pas. T'en recontactes date, ok, lui c'est moins cher, allez, ça me va, vas-y, clac. On s'organise tel jour, bam, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et comment tu les trouves? C'est des recos, c'est en allant fouiller sur Instagram?
Ouais, c'est beaucoup sur Instagram.
Tu tapes Tahiti wing foil?
Ah non, ouais, c'est souvent par contact, voilà. Enfin, comme beaucoup de choses dans la vie, toujours la première fois que tu vas dans un endroit, là c'est compliqué. Mais c'est pour ça que c'est agréable de retourner au même endroit qu'on a l'habitude. Maintenant, je sais que je vais à Maurice ou à Tahiti, typiquement, je sais qui contacter parce que j'ai déjà travaillé avec eux et ça s'est bien passé. Et j'espère le refaire. Mais par exemple, si demain, j'ai envie par exemple d'aller à Madagascar faire une vidéo, je ne sais pas qui contacter. Et donc là, peut-être que c'est bien de prendre quelqu'un par exemple de France. Voilà, ça peut être intéressant. Ou alors, comment je fais? Je contacte des copains qui sont déjà allés là-bas et je leur dis, tiens, tu connais pas quelqu'un qui filme là-bas? Si, tiens, il y a un tel, contacte-le. Un tel, il va me dire, moi, je peux pas, mais tiens, je te donne un tel. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que j'ai fait les premières fois que je suis allé, par exemple, à l'île Maurice. Voilà. J'ai contacté des copains qui sont là-bas et j'ai demandé, c'est qui peut bien filmer là-bas? Et il m'a dit, tiens, t'as lui. Lui, il est moins bien, lui, il est pas mal, lui, il est cher, machin. Et hop, tu les contactes tous et tu trouves ton compte. Et après, au fur et à mesure des années, tu vois avec qui tu travailles le mieux.
Ouais, exactement. Je vois très bien, je travaille un peu pareil, tu vois, mais sur une journée, ou sur deux, trois jours de session, là, tu peux sortir derrière combien de vidéos? que tu vas réutiliser sur tes réseaux ?
Ouais, ça peut vraiment dépendre de la journée, du caméraman aussi.
Ouais. Mais c'est quoi ton record de productivité alors ?
Oh, je pense que forcément, quand on va sur des shootings, c'est là où on fait le plus de contenu parce que c'est vraiment l'intitulé du voyage, quoi. Bien sûr, j'adore faire du contenu et c'est super important pour nous aujourd'hui. C'est l'une des choses les plus importantes. La raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est parce que ça me plaît à la base. Donc, si je vais rider des grosses vagues et ça, ou faire quoi que ce soit, c'est parce que ça me plaît. Et je ne vais pas aller regarder là où je fais le plus, entre guillemets, de performance sur une journée en termes de contenu, quoi. Je suis content si j'ai un bon shot, deux, trois bons shots, mais c'est rare que j'en fasse des journées comme on fait parfois, des journées super crevantes sur des shootings pour des marques où on se lève à 7h et on se couche, et on ride jusqu'au sunset, quoi. Ça, c'est crevant, mais bon, forcément, oui, on a beaucoup d'images. Ouais. Enfin, peut-être que je devrais faire ça plus souvent, je sais pas. En tout cas, je fonctionne pas comme ça.
Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, d'avoir un peu ton process créatif. Et, tu vois, là, en échangeant, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec Kylian Bron. Tu vois qui c'est, Kylian ? C'est un VTTiste qui était, lui, pareil, qui était au début, qui a fait du VTT de descente pro, tu vois, sur les circuits Coupe du Monde, et qui s'est mis à faire énormément de vidéos sur YouTube et tout, et qui va faire des descentes d'endroits de psychopathes, tu vois, des montagnes de dingue. Dans son équipe, effectivement, il y a un réalisateur, tu vois, qui est full-time, qui le suit sur tout, et de temps en temps, ils vont prendre du drone, de temps en temps, ils vont prendre un autre VTTiste qui va filmer pour le suivre, tu vois, par exemple, et ils font des contenus de fou, quoi. Et lui, c'est vraiment un artiste, c'est un réalisateur vidéo, quoi. Il s'inspire, tu vois, il s'inspire d'autres gros athlètes, tu vois, qui font du contenu de ouf. Il avait une démarche artistique hyper, hyper poussée, quoi, hyper professionnelle. Mais il fait plus que ça, quoi. C'est que des films pour des marques, tu vois. C'est devenu son métier. Il fait plus de compète.
Moi, je vais essayer de plus m'orienter dans ce côté-là, mais j'aimerais bien. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est sûr que j'aurai un gars qui me filme tout au long de l'année. Je pourrais faire du contenu de bien meilleure qualité, beaucoup plus souvent et tout ça, mais j'ai pas du tout les moyens de faire ça aujourd'hui, même si, enfin, j'adorerais, ça serait beaucoup mieux pour moi. Voilà, après, ça dépend aussi de la vision de où t'en es dans ta vie et ce que tu veux faire. Peut-être que si je me dis, je vais faire ça toute ma vie, absolument, j'investirai tout mon argent aujourd'hui là-dedans et peut-être que ça marcherait et voilà. Mais après, peut-être que j'ai d'autres projets aussi dans la vie et de ça, mais oui, j'ai quand même envie d'essayer d'avoir plus de moyens pour essayer de faire plus de contenu de qualité notamment. Et c'est sûr que ce serait une bonne chose, ouais, parce que oui, comme tu as dit, il y a plein de gens qui sont super inspirants et c'est sûr que ça me ferait plaisir d'en faire partie, parce que je pense que je peux avoir de bonnes idées pour tout ça. Il faut juste que j'arrive à me donner et trouver les moyens.
Ouais, mais c'est sûr que tu vas y arriver, quoi. T'as un spot préféré sur lequel t'adores rider ? Si tu devais en choisir un endroit où tu fais que tu passerais jusqu'à la fin de tes jours.
Ouais, ça serait la Nouvelle-Calédonie. C'est chez moi. C'est entre autres parce que c'est chez moi, que j'ai mes repères, j'ai mes amis d'enfance là-bas. Il y a des très bonnes vagues de super qualité, du très bon vent. Et il y a tout ce que j'aime d'autre dans la vie, tout ce qui est aérien, les montagnes, le lagon, la pêche. Je trouve un peu tout ce qui me plaît là-bas.
J'imagine, ouais. Une des questions que je m'étais notée, tu vois, là je change un petit peu de sujet, mais ça rebondit avec ce qu'on s'était dit avant, c'est qu'est-ce qu'ils disent les sponsors quand tu leur dis que tu fais aussi du saut en parachute, du planeur, tu vois, de la pêche sous-marine et tout, ils essayent pas de te brider et de te dire, tiens, concentre-toi sur ce qui aujourd'hui fonctionne le mieux en termes d'image et de prize money, tu vois, aussi, qui est la Wing.
Eh ben, ouais, t'as des sponsors qui vont te dire ça, qui vont essayer de te brider, qui vont te dire, tiens, tu devrais te concentrer plutôt là-dessus, enfin, ça t'apporte rien de faire tout ça. Et t'en as d'autres où on peut plus s'en ficher, peut-être qu'ils en pensent pas moins, mais en tout cas, ils vont pas te le faire repérer. Après, moi, personnellement, j'ai toujours aimé, je suis un peu une tête de mule, voilà, que ce soit à l'école et aujourd'hui, j'ai toujours aimé faire ce que je veux, dans tous les cas. Même si on me dit de faire ça, ça ne veut pas dire que je vais l'écouter. Je pense que voilà, toute la communauté de la Wing, du Kite, je pense l'avoir touché et être connu là-dedans. Et je pense que dans la carrière et la vision qu'on peut avoir extérieurement d'un athlète, de mon point de vue, je trouve que ce soit une bonne chose que l'athlète, il soit pas juste, il sache pas juste faire une chose, quoi. Parce que, bah, à l'occurrence, moi, j'ai la chance de aimer plein de choses et savoir faire plusieurs choses. Et je vois pas pourquoi je me passerais de le partager avec ma communauté, même si ça a rien à voir avec le sport dans lequel je suis au top. Mais voilà, je pense qu'il y a aucune raison de pas le partager avec la communauté. Et au contraire, il y a plein de gens qui me disent « Pouah, mais c'est trop cool, que tu fasses ça, ça, ça. » Et puis ça te fait, je pense, une image différente plutôt que bah, le gars, bah, ok, il fait que gagner des courses de wing. Enfin, si c'était le cas, bah, tant mieux pour moi. Mais, enfin, tant pis pour moi, mais je veux dire, voilà, je fais d'autres trucs. Donc, je vois pas pourquoi j'irais m'en cacher. Mais c'est vrai que parfois, peut-être certains de mes sponsors, ils m'auraient dit peut-être... plus de m'en cacher de ça, mais je n'ai jamais trop écouté, et j'en ai fait qu'à ma tête, et puis je continuerai comme ça, et parce que c'est mes passions, c'est ce qui me fait vivre, c'est les raisons pour lesquelles je vis aujourd'hui, et peut-être que grâce à la Wing, et ben grâce à ma communauté sur les réseaux sociaux, je peux peut-être toucher, enfin ça m'a permis de faire comprendre à des gens que je faisais autre chose, grâce à ces outils qui est les réseaux sociaux qui est super aujourd'hui, par exemple, voilà, il y a 3 semaines, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, et ben un gars m'a dit, ah ben tiens, mais je fais du planeur aussi en Nouvelle-Zélande, viens voler avec moi. Et hop, on va voler. Par exemple, il m'a emmené voler. Enfin, des choses comme ça. Et bon, là, c'était ça pour ça, mais ça peut être pour plein de choses. Enfin, je n'ai pas là, dans la tête les idées, mais je l'ai fait des tours d'avion, des coups de ski, tout ça, avec des gens qui me connaissaient via la Wing, mais qui, eux aussi, pratiquent d'autres sports. Et au final, c'est trop cool de pouvoir partager une autre passion avec eux, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que tu as ce luxe-là, tu vois, d'avoir fédéré une audience ultra fan de sport de glisse, de sport extrême, d'avoir du coup des gens qui peuvent te proposer plein de petits projets cool, quoi. Ça, c'est un privilège, ouais.
Et puis comme j'ai dit, ouais, si un jour je veux faire des vidéos ou des films et de ça, et que je peux intégrer d'autres choses que de la Wing, ça peut être sympa aussi, quoi. Et voilà, et même en termes de sponsors, il y a des athlètes qui sont sponsorisés pas uniquement que pour leur sport, mais des gens qui font... Enfin, si moi, un jour, je suis sponsorisé aussi pour les autres choses que je pratique, je serais super content, quoi.
Ouais. Ouais, non, mais bien sûr. C'est quoi tes projets les plus fous? Tu vois, vu que tu parlais de mélanger les sports, est-ce qu'il y a un truc qui... Une idée qui te traîne dans la tête, tu vois?
Bah, j'en ai plusieurs. Tu vois, par exemple, ça n'a rien à voir avec la Wing, quoi. C'est rigolo, hein, mais... Je suis là grâce à la Wing, mais par exemple, j'aimerais bien monter des grandes montagnes, je sais pas encore lesquelles, mais grâce au snowkite, tu vois. Je fais du snowkite aussi pas mal l'hiver, j'adore ça. Et j'aimerais bien monter des sommets qui n'ont jamais été montés, ou j'ai déjà fait, mais le refaire, voilà, assez haut. Je me suis mis au parachutisme il n'y a pas longtemps. Du coup, je me suis dit qu'un jour, avec un kite, je pourrais faire ce qu'on appelle un tow-up, c'est-à-dire on tire avec une corde depuis un bateau ou une voiture ou quoi que ce soit. En fait, ça a déjà été fait, ça, la tirer très haut. Ils sont montés à 200, 300 mètres, quoi, avec une corde. Et je me suis dit, en planeur, nous, on a des câbles de 2 km. On fait ça avec des planeurs. On se fait tirer grâce à un câble comme ça. Et je me dis, tiens, je pourrais faire ça avec un kite, enfin, au-dessus de l'eau, avec un bateau, juste reprendre le câble et me faire monter plus haut que ça, plus haut, enfin, voilà, peut-être 500, 1000 mètres. Et puis, maintenant que je fais du parachutisme, après, peut-être une fois là-haut, lâcher mon kite et sauter en parachute, des trucs comme ça. Enfin, ouais, ça me... Si je trouve... Enfin, il faut que je fasse quelques sauts de plus parce que je suis qu'au début de ma formation. Enfin, je l'ai fini, mais...
tu fais déjà des sauts de malade, là. Je te vois faire, boum, des putains de saltos et des backflips et tout. Fais triple backflip et tu vas me dire que tu fais... T'as combien de sauts, là?
J'ai rien du tout, en fait. Hein. J'ai que 7 sauts. Hein. Mais c'est au début de ta formation, on fait tout ça en parachutisme, c'est vrai. Bon, pas tout le monde le fait, mais moi...
Moi, je te dis, j'ai plein de potes qui ont appris à sauter et ils font pas triple backflip.
Ouais, peut-être, alors je sais pas. En tout cas, ça a été assez rapide. Mais enfin, en tout cas, ça me plaît, il faut que j'en fasse plus. Mais peut-être qu'un jour, là, si je suis à l'aise là-dedans, que je me donne les moyens et que ça me plaît et que je suis encore assez fou pour le faire, ben voilà, je ferai un truc similaire. Mais sinon, là, pour revenir à ce que je dis depuis le début, voilà, franchement, faire des vidéos... voilà, de voyage, d'expédition, dans des endroits un peu sympas. Ça me plairait vraiment bien comme projet. Et surtout si j'arrive à trouver peut-être une cause qui m'intéresse à défendre et tout ça. Ça serait un projet qui me tiendrait à cœur. Voilà.
Ok. T'as des spots en tête?
Pour les vagues, ouais, c'est sûr. J'aimerais bien aller à une île juste à côté de chez moi, dans l'Académie, qui s'appelle Fidji. Voilà, bon, c'est connu. Voilà, mais il y a le sud de Madagascar aussi, que j'ai jamais fait. Je suis allé au nord il y a quelques années, mais pas au sud. Et là-bas, il y a des très belles vagues aussi. Et c'est un milieu un peu spécial. Voilà, c'est super pauvre et tout ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être une histoire à raconter.
Ok, ça marche. Le tonton, je vais bientôt te libérer. Mais en tout cas, ouais, c'est assez kiffant, tu vois, de voir tous les trucs que tu touches. Et je trouve que c'est inspirant de se dire on peut progresser dans plein de sports. On peut kiffer et toucher à tout, quoi.
Ouais, comme je disais au début, je sais pas si je me lasse au bout de 4 ans ou pas, mais en fait, beaucoup plus tôt que ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, moi, de la Coupe du Monde, quand je ressors que j'ai fait que des compètes, coaching, machin à l'affilée, et ben la vérité, je peux plus en entendre parler de la wing, tu vois, et il faut que je fasse autre chose.
Tu fais des coachings aussi?
Ouais, j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait un l'an dernier, juste à la fin de la saison. C'est pour ça, voilà, je suis ressorti de ça, j'en pouvais plus. Enfin, entre guillemets, j'en avais rien à faire d'aller faire de la wing, quoi. Et donc, du coup, le fait d'aller faire autre chose, voilà, randonnée en montagne, du ski, du planeur, de parapente, machin, et ben j'en fais un petit peu. Et hop, après, bah, ça me redonne envie d'aller faire autre chose. Parce que sinon, je serais incapable de me concentrer à 100% que dans un sport, comme plein de gens arrivent à faire. Enfin, tous les sports olympiques, typiquement, c'est ça. Et moi, je sais que bah, ça ne m'amènerait pas du tout, quoi.
Ouais, tu n'auras pas pu fonctionner avec toi, quoi. Tu sais d'où ça vient, ça? Ce côté toujours vouloir essayer autre chose, à se lasser super vite.
Non, ça j'ai aucune idée, mais ça serait intéressant de rechercher, je sais pas.
Écoute, tu te poseras peut-être la question, mais c'est chouette, c'est ouf. C'est qui les mecs qui t'inspirent pour aller chercher des nouvelles idées créatives, des nouvelles idées de vidéos, des nouveaux projets, ou mais Kundana, tu vois, où tu te dis, tiens ça j'aimerais bien faire,
ouais.
Tu vois.
Ouais, dans tout ce qui est côté mer, Waterman, bah, y a un gars qui s'appelle Kaileni, là, qui est très connu à Hawaï, qui fait énormément de contenu de plein de super nautiques. Évidemment, il est très inspirant. Pour les côtés aventuriers, il y en a quand même plein, voilà, que ce soit Mike Horn et tout ça, qui ont voilà, traversé les océans, les pôles et tout ça. Enfin, que bien sûr, ça m'inspire énormément. Et d'autres aventuriers, que bon, j'ai pas leur nom en tête. Et aussi d'autres aventuriers qui... Antoine Girard, par exemple, un Français là, qui a traversé... Tu connais?
Ouais, bien sûr, j'ai interviewé, ouais.
Ok,
ouais.
Parapentiste?
Ouais, exactement.
Voilà, qui a traversé par exemple l'Himalaya en vol bivouac, rien qu'avec son parapente et tout ça. Et bah c'est des gens que, ouais, qui m'inspirent. Et qui...
Tu l'as rencontré, Antoine?
Non, jamais, mais bon, enfin, moi je suis... pas que lui, enfin il y en a plein, enfin il n'y en a pas plein comme lui, mais il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses, et bon, il y en a plein d'autres, hein, des gens comme ça qui m'inspirent.
Ouais, mais écoute, si tu veux, je pourrais te présenter Antoine, mais si tu veux, mais effectivement c'est très chouette. Tu dois faire des expés de l'aventure, tu citais Mike Horn, c'est un truc qui te ferait kiffer de traverser l'Antarctique ou plusieurs mois dans le cercle polaire, par exemple.
Ouais, peut-être plusieurs mois, ça doit être long, mais oui. Mais oui, oui,
mais... Bah lui, c'est quoi? C'est 90 jours,
ouais,
je crois. Ouais,
non, mais je sais même pas, tu vois, j'en parle, mais bien sûr, non, mais oui, que ça m'intéresserait énormément. Ça, moi, j'ai un peu vécu sur un bateau. Mon père avait un voilier. Bon, j'ai voyagé un petit peu en bateau, pas énormément, mais ça m'a quand même toujours plu. Et peut-être le faire plus un jour, oui, ça me plairait énormément, et j'ai toujours aimé, oui, l'aventure, le voyage, enfin à mon échelle, hein, on a fait des petites randonnées, des petits voyages, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et tout ça, c'était un peu l'aventure aussi, même mon parcours, voilà, mes premières années dans le sport, c'était quand même un peu une espèce d'aventure aussi, quoi. Mais ouais, des aventures dans la nature, à la rencontre de paysages et de personnes, ça, bien sûr, ça m'intéresse énormément.
Hein. Ok. Tu connais Guirec Soudé? C'est un mec qui est parti faire un tour du monde à la voile quand il devait avoir 20 ans, tu vois. Bon, il s'est fait connaître parce qu'il a embarqué une poule sur son bateau. Et,
il avait un nom dans sa poule, non?
Exactement, c'est Monique.
Oui,
c'est
voilà.
Monique, et elle est décédée il y a très peu de temps. Ouais, ça faisait 5-6 ans déjà.
Ah bah c'est vieux pour une poule.
Ouais, déjà qu'elle avait fait le tour du monde plusieurs fois, qu'elle l'a suivi au Groenland et tout.
Ah ouais.
Et lui, ouais, il a passé 6 mois au Groenland, et justement pour attendre la fonte des glaces. Et pour pouvoir passer par le cercle arctique, tu vois.
Ok.
Le cercle polaire. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il est passé par le Groenland, tu vois. Et il a fait tout le tour de ce côté-là. Moi, il me bluffe, tu vois, de partir tout seul comme ça, hyper jeune, dans une aventure. Je trouve ça assez ouf, quoi.
Mais les gens encore plus fous que moi, tu vois. Ouais, je sais pas si je pourrais faire ça. Hein.
T'en tiens une bonne couche, quand même.
Ouais, mais ouais. Je sais pas, partir seul. Moi, j'aime beaucoup le partage, quand même. Et enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses seul, hein, mais quand même, voilà, toutes mes des belles sessions et tout ça, j'aime quand même bien le partager avec des gens.
Ok. Il y a des trucs qui te font peur dans la vie ?
Non, je sais pas tant que ça. Enfin, je sais que j'ai des limites, hein, en termes de, je sais pas, de taille de vague, de ou que ce soit quand on va dans la montagne, en avalanche et tout ça. Enfin, je mesure entre guillemets mes risques, hein, et non, là, j'ai pas d'idée de qu'est-ce qui me ferait peur particulièrement dans ma vie.
Ok. Il y a eu des moments où tu t'es fait peur dans la pratique ? En kite ou...
En kite, j'ai eu un accident. Je me suis cassé deux vertèbres en 2016, là. Bah, j'ai eu mon meilleur résultat quelques mois après. Donc, je pense que voilà, les blessures, souvent, ça fait revenir plus fort. Donc, enfin, ça dépend de la blessure, mais en tout cas, moi, c'était le cas. Sinon, du coup, je me fais peur. Non, c'est que ça. Après, voilà, comme j'ai dit, ouais, je fais pas mal de parapente et je sais que je me suis déjà fait assez peur en parapente et bah, c'est pour ça que je suis content d'avoir fait la chute libre après derrière, comme ça je sais que le jour où j'aurai besoin de tirer mon secours en parapente ou quoi, bah, j'en aurai moins peur. Mais non, c'est un peu les deux seules fois où on va dire je me suis fait un peu peur dans ma vie.
Ok, c'est un truc que tu recherches ou cette adrénaline de la peur ou...
Non, mais j'aime bien l'adrénaline forcément, mais là ce coup là par exemple en parapente, non, si j'aurais pu l'éviter sans problème quoi.
Ok. Bah, j'avais interviewé Mathias Giraud. Je sais pas si tu connais sur les réseaux, c'est super Frenchy. C'est un gars qui fait, il fait du ski base. Il va rider des pentes raides. Tu vois, il skie et puis après il se balance dans la falaise et il ouvre son parachute.
Ah oui, j'ai vu des vidéos de ça. Ouais. Mais ça, quand j'ai vu, je me suis dit, ça, j'aimerais bien faire un jour. Voilà, tu vois. Je me suis dit, ça doit être dingue, vraiment.
Mais ouais, bah Mathias, je l'ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Là, je l'embrasse. C'est un mec. Ouf. Et tu vois, lui, en interview, il m'a dit, ouais, je suis un peu accro à cette sensation où des fois, je me fais vraiment peur, quoi. Parce qu'il y a plusieurs fois où, en faisant du base jump, son parachute, il a failli pas s'ouvrir, ou il y a eu, tu vois, des coups de vent proches de falaises, tu vois, notamment à côté des chutes d'eau. Apparemment, quand tu sautes à côté d'une chute d'eau, le vent, il est complètement inversé, et du coup, tu peux te faire vraiment bien flipper. Mais lui, il me disait qu'il aimait bien ça, quoi, et qu'il le...
Ouais.
Mine de rien, il le recherchait un peu de temps en temps, quoi, tu vois.
Ouais, bah je pense que je le recherche aussi, mais je pense moins que les base jumpers, ouais, voilà, par exemple. Je pense qu'eux, ils en ont besoin de doses plus fortes que moi, quoi.
Ouais, c'est assez addictif aussi, hein, pour tout le monde.
Ah oui, bah, je pense que oui, c'est une drogue, hein, mais bon, c'est la plus saine de toutes.
Ouais, je sais pas si c'est sain, mais ouais, faudrait définir le mot sain, quoi. Mais t'as l'adrénaline, mais t'as aussi, ouais, tu peux, t'sais, ceux qui vont courir des ultra-trails ou ce genre de trucs.
Ah ouais, ah bah ça, je suis pas du tout.
C'est pas pour toi, ça.
Non. Ouais, j'aime bien un peu l'endurance, mais pas trop, quoi. Hein.
Pas trop de prépa physique.
Non.
J'ai une dernière petite question avant les questions de la fin, là. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'es pas dehors en train de faire du sport ? Tu te poses jamais, t'sais.
Bah si, complètement, mais si, là, ces derniers jours, j'ai pas fait grand-chose, hein. Mais quand je fais pas grand-chose, bah, j'en profite pour être sur mon ordinateur et m'occuper de un peu toute la partie administrative qu'a un athlète à gérer, quoi, en fait. Parce que bah, plus on grandit et plus on passe du temps à gérer des trucs administratifs et des papiers plutôt qu'aller sur l'eau, quoi. Et franchement, ça, des fois, ça me fait halluciner, quoi.
C'est quoi les trucs qui te font halluciner ?
Bon, non, mais voilà, l'an dernier, j'ai ouvert une entreprise, là, parce que bah, voilà, quand tu gagnes un peu plus d'argent en France, il faut faire ça. Ça paraît ridicule, peut-être pour plein de gens qui vont m'écouter, mais moi ça me saoulait de faire toutes les sortes de comptabilité, tout ça. D'ailleurs, je suis carrément en retard de plein de trucs, de ça. Non, et plein d'autres paperasses un peu con, là, répondre à quelques mails par jour, ça c'est beaucoup pour un mec comme moi qui vient des îles de base, tu vois. Je suis pas habitué à faire ça de base. Et puis aussi un peu aller s'occuper des réseaux sociaux, voilà, oui, créer des contenus. Ça c'est une petite partie, mais. Mais ouais, toute la partie planification des projets aussi, tu vois. Enfin, des projets et des voyages. Et...
C'est plus kiffant quand même.
Oui, ouais.
C'est pas le plus drôle,
oui,
mais...
Oui, voilà, après, ouais. Tu sais, les billets d'avion, j'en ai pris des centaines. Au bout d'un moment, t'en as marre d'aller faire ça.
Mais tu veux pas le déléguer, ça ?
Eh ben non, pareil.
Toi qui es allé à Madagascar, tu peux pas trouver, un assistant personnel
Non, j'aimerais bien, bah, peut-être pas pour les billets d'avion, mais pour plein de trucs, j'aimerais bien. J'essaie de déléguer, hein, certains trucs que je peux absolument pas faire, mais on n'a pas, enfin, j'ai pas forcément les moyens de déléguer pour tout, quoi.
Ouais, bon, je te ferai des bons plans dès qu'on accroche. La toute dernière question, et puis là, je te libère, Titouan. Comme je te dis, c'était un peu un passage de micro, c'est de savoir quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommande, tu vois, d'aller interviewer pour parler, raconter un peu son parcours et parler un peu de soit d'une enfance terrible, soit de galères administratives ou de projets un peu créatifs.
Tu vois, j'aurais dit Antoine Girard, mais tu l'as déjà interviewé, donc c'est cool. Écoute, ouais, j'ai un copain là qui fait du kitefoil, qui a été plusieurs fois champion du monde de kitefoil, qui a un parcours intéressant. C'est le fils d'un grand navigateur, il s'appelle Nicolas Parlier. Voilà. Yves Parlier, c'est son père. Et il a été plusieurs fois champion du monde de kitefoil à l'époque où j'en faisais pas mal. Et je pense qu'il a un parcours intéressant, avec quelques sûrement plein de similitudes avec moi.
Nicolas, écoute, Nico Parlier, effectivement. Bon, écoute, je le suis sur les réseaux sociaux, tu vois, je savais pas que c'était un pote, que c'était un pote à toi. Donc,
Ah si, c'est un très bon copain.
Ok, hein. Bon, bah cool. Bon, écoute, tu pourras lui en toucher deux mots et tu pourras lui dire que je vais le contacter. Écoute, très cool, merci beaucoup pour ta reco. Merci également pour ce moment, tu vois, j'ai appris pas mal de trucs sur toi, tu vois, comme quoi les réseaux sociaux et la vie en vrai, il y a vraiment des fois un monde. Et merci, tu vois, d'avoir ouvert les yeux sur tout ça, parce que je pense que il y a un très bon côté aux réseaux sociaux, comme tu l'as dit, ça te permet d'en vivre, ça te permet de faire des voyages, ça te permet de faire des collaborations, de rencontrer des gens. Mais il y a aussi un côté où, bah, qui déforme un peu la réalité, et c'était cool que tu puisses remettre un peu les points sur les i, des fois sur quelques points, quoi.
Ouais. Bah, peut-être que, ouais, enfin, peut-être plus tard, on essaiera de peut-être montrer plus la réalité, je sais pas, sur les réseaux sociaux, mais pas sûr que ça plaise à tout le monde.
Je t'encourage à le faire. Ouais, mais je te le dis. Pour avoir accompagné quelques athlètes, accompagné quelques entreprises aussi, tu vois, sur leur communication, bah ouais, en fait, ça, les gens veulent voir les dessous du décor, parce que les trucs trop beaux, trop parfaits, c'est pas humain, en fait. Si tu veux, ça te décorrèle de la réalité. On peut se dire, tu vois, moi je m'étais dit, putain, Titouan, il a son équipe, il est cool et tout. Et en fait, là, tu vois, là, moi je te vois d'égal à égal, tu vois. Je me dis, ok, bah en fait, il est comme moi, il va se louer un van, il se loue un van et puis il dort dedans. Et puis le soir, il va se manger du cassoulet en conserve, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et ça rapproche, en fait, tu vois. Ça rapproche des gens. Et ça donne des tips, tu vois, aussi, comment tu passes de l'un à l'autre, comment est-ce que tu. C'est mon avis, en tout cas, ça plaît. Après, je suis pas du tout parole d'évangile, mais c'est un peu mon boulot, la communication, donc je me permets de donner un avis, mais c'est qu'un avis. Bah écoute, merci beaucoup, Titouan.
De rien, merci beaucoup de m'avoir eu aujourd'hui, c'était un plaisir.
Et ben, écoute, je te dis à une prochaine.
Carrément. Salut. Ciao. Un plaisir. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.